point de repère.
Bonjour à tous. Que reste-t-il des attentats de Paris en novembre 2015 ? Comment relire tous les emballements et ces accélérations que nous avons vécues ? Comment démêler tous les amalgames qui ont été faits sous le coup de l'émotion ? Parce que tout a été touché, la place du religieux, le sécuritaire, la radicalisation, le silence des musulmans, les politiques d'accueil, les politiques d'intégration, l'encadrement des religieux, le tout au milieu du drame des migrants. Pour paraphraser André Tozel, le spectacle du monde fait naître en nous deux sentiments contradictoires. Un sentiment d'impuissance et un sentiment de révolte face aux monstruosités que le monde produit sans cesse. Mais comment passer de l'émotion à l'analyse ? Comment exercer notre droit de penser et de penser à un monde affolé par la violence, affolé par la violence, je dis bien, d'autant qu'elle est associée à une religion. Comment situer cela dans les cadres qui sont les nôtres, les cadres de la démocratie belge, et qui sont souvent si peu ou si mal connus. Nous avons besoin de points de repère pour comprendre les enjeux citoyens de tout ce que nous vivons. Et cette émission, c'est vrai, se situe généralement à la croisée des convictions ou des spiritualités. Mais cette fois, je voudrais que nous puissions mieux situer les différents niveaux où nous pouvons nous placer. Voir comment ces niveaux s'articulent ou s'emboîtent, en quelque sorte. Le niveau politique, le niveau social, le niveau convictionnel, dans le cadre de notre démocratie. C'est cette clarification de notre système démocratique que je voudrais travailler aujourd'hui avec vous. Et pour nous y aider, pour nous aider à voir clair, j'ai invité Édouard Delruel. Édouard Delruel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université de Liège. Vous avez été directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme de 2007 à 2013. Intellectuel engagé, on peut le dire, vous intervenez souvent dans les médias avec exigence et clarté. Un philosophe, c'est souvent un empêcheur de penser en rond, quelqu'un qui bouscule, qui rappelle, qui invite à penser autrement, qui invite à sortir de l'opacité. C'est un terme qui vous tient à cœur, je pense. Et une première chose, Édouard Delruel, dans les attentats qui visaient Charlie Hebdo, on a pu penser que c'était la liberté d'expression qui était visée. Mais cette fois-ci, en novembre de 2015, qu'est-ce qui était visé ? Un mode de vie ? Des valeurs ? Des symboles ? Qu'est-ce qui est visé, à votre avis ?
Alors, la question est déjà complexe. Je pense qu'il ne faut jamais d'abord oublier qu'un acte de terrorisme, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais je vais tout de suite expliquer, qu'un acte de terrorisme est un acte de communication avant même d'être un acte de guerre. C'est un acte de communication terrible, parce qu'il y a 130 morts, mais c'est avant tout un acte de communication. Donc, effectivement, la cible a tout son sens. Les bombes sont des messages, et on y reviendra peut-être, il arrive que les messages soient aussi des bombes. La violence, elle n'est pas que physique, elle peut être aussi dans les mots. Et je pense que c'est très important, parce que les événements, que ce soit de Charlie ou du 13 novembre, tout ça passe par les mots, tout ça passe par Internet, tout ça passe par les images, par la télévision. Et je pense qu'il faut d'abord se déprendre de cela. Alors moi, je ne crois pas qu'entre Charlie et le 13 novembre, il y ait une si grande différence de cible. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire, ben, Charlie, ce sont des gens qui peut-être, alors on va commencer à discuter, ça a peut-être été trop loin, et puis ben, les juifs, c'est une religion, enfin bref, on ciblait les gens, tandis que le 13 novembre, on n'aurait pas ciblé. Je pense qu'on a ciblé quand même quelque chose le 13 novembre. On a ciblé la musique, on a ciblé des terrasses, on a ciblé la convivialité, on a finalement ciblé ce qui fait peut-être l'essence même d'une société, c'est-à-dire ces modes de coexistence. L'être humain, j'espère qu'on y aura l'occasion d'y revenir, l'être humain est un être fondamentalement coexistants. Si je peux paraphraser Sartre, hein, l'existence précède l'essence et la coexistence précède l'essence. Donc, quand on va toucher le mode de coexistence des gens, c'est-à-dire la convivialité, le repas, la musique, c'est-à-dire des choses qu'on attend en partage, eh bien, on vise quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire ce qui, en Europe, fait le fondement même de la convivialité. Donc je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait en visant ces cibles-là. Donc ce ne sont pas du tout des cibles indistinctes. C'est aussi le centre de Paris. On n'a pas été en banlieue, évidemment. Donc on essaye aussi de monter les communautés les unes contre les autres. Donc voilà, la première chose, je pense, qu'il faut bien voir, c'est dans ces attentats de Paris, un acte de communication absolument affreux et de cibler l'essence même, sans doute, de la convivialité européenne.
Mais on a l'impression tout de même que cette cible est plus large que Charlie Hebdo, finalement. C'est un mode de vie ?
Oui, c'est certain. Mais je pense que Daesh est pris actuellement dans une spirale, dans une montée aux extrêmes, qui est d'ailleurs une des définitions possibles de la violence, on y reviendra peut-être. Comme on sait, Daesh est en grande difficulté et donc a tendance maintenant à élargir ses cibles. D'ailleurs, en s'attaquant même, par exemple, à la Turquie, à ses propres alliés, en quelque sorte, puisque la Turquie était quand même relativement proche de l'État islamique. Et ça les a fait basculer, évidemment, dans la lutte contre Daesh. Donc, ils sont pris dans une spirale, sans doute d'ailleurs d'autodestruction. On va sans doute venir à bout de Daesh. Hélas, je pense qu'après, ce sera d'autres offres de terrorisme islamiste qui viendront, tout ça. Simplement parce que tant qu'on ne règle pas le problème géopolitique dans cette énorme région qui va du Maroc à l'Afghanistan et qui vit une guerre civile généralisée, tant qu'on ne règle pas ce problème, il y aura toujours du terrorisme. Il ne faut jamais oublier aussi que le terrorisme ici qu'on a vécu, ça explique peut-être aussi une sorte d'élargissement. On présente toujours ces actes comme des actes d'un islam conquérant, comme ça, d'un islam sûr de lui et conquérant. C'est tout l'inverse. Cet islam-là, et heureusement qu'il y a aussi un islam apaisé, un islam sûr de ses valeurs, je dis apaisé, mais l'islam qui nous frappe, c'est un islam en crise. C'est un islam qui perd un peu les pédales et donc qui commence effectivement à multiplier ses cibles, à les élargir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cible. Hein. On a quand même ciblé la musique, les jeunes. Oui. Il y a quand même une cible, même si vous avez raison, elles étaient plus larges que Charlie Hebdo et l'hypercachère.
C'est un islam humilié ?
Oui, bien sûr, c'est un islam humilié. C'est ça qui fait la difficulté, c'est-à-dire que c'est un islam en crise et donc on sait bien que lorsque les sociétés sont en crise, il y a toujours des tentations totalitaires de la part de gens qui sont dans la violence et qui profitent de cette violence, mais qui s'appuient sur un terreau de gens qui sont tout simplement des gens humiliés. Il est évident que depuis presque un demi-siècle, le monde arabo-musulman, tout le monde arabe n'est pas musulman et tout le monde musulman n'est pas arabe, mais le monde arabo-musulmans, c'est le grand vaincu de la mondialisation. Ce sont les grands perdants de la mondialisation. Il n'y a pas de véritable grande puissance. Enfin, ces populations ont vécu soit sous le joug du colonialisme ou de paracolonialisme, de protectorat, de dictatures qui ont été imposées souvent de l'extérieur. Et il est évident que l'humiliation est ici le ressort sur lequel cette violence fait fond. Et il est évident que la réponse de fond, il y a les réponses sécuritaires à avoir. Moi, je n'ai pas de problème avec une série de mesures sécuritaires qu'il faut prendre, pas toutes, on y reviendra peut-être. Mais le fond du problème, c'est évidemment d'en arrêter avec les humiliations à répétition envers le monde arabo-musulman, c'est certain.
Oui, on voit bien que dans l'imaginaire musulman, d'ailleurs, et les croisades, et la colonisation, et toute une série d'humiliations récentes sont extrêmement vives et transparaissent dans les messages. Mais par ailleurs, il y a tout ce qui se déchaîne chez nous. Les amalgames, le populisme, la diabolisation, les réflexes sécuritaires, vous en avez parlé. Et on entre dans une sorte d'opacité, ici, en Occident, qui nous mène à une passivité. Nous sommes écrasés, nous sommes abasourdis, tétanisés, sidérés, littéralement. Alors, l'enjeu sera passer d'une passivité à quelque chose de beaucoup plus actif et plus lucide.
Oui, bien sûr, vous parliez dans votre présentation de passer de l'émotion à l'analyse. Je pense que c'est absolument indispensable de faire ce moment de l'analyse. et de le faire de façon récurrente. Et c'est le travail du philosophe, c'est le travail du sociologue, c'est le travail de l'anthropologue, de l'historien, mais je pense le travail de n'importe quel citoyen, de n'importe quel être humain qui vit en société et qui est soucieux de la société dans laquelle il vit. Aujourd'hui, l'horizon de la société dans laquelle nous vivons, c'est le monde entier, pour chacun d'entre nous. Hein. Puis personne ne peut se contenter de n'être le citoyen que de sa ville ou que de sa région ou que de son pays. Donc l'analyse, le moment de l'analyse est absolument nécessaire. Et vous voyez très bien d'ailleurs que les gens qui ne font pas ce travail d'analyse développent ce que Spinoza appelle les passions tristes. Hein. Ils en restent à la sidération, c'est-à-dire à la tristesse, à la colère, ce qui est d'ailleurs bien normal. J'étais moi aussi en colère évidemment le 13 novembre quand j'ai vu ce qui est arrivé, l'indignation, l'incompréhension. Eh bien, on ne peut sortir de là que par l'analyse et par la lucidité. Et je réfère tout de suite à autre chose que vous avez dit, c'est-à-dire de bien voir les niveaux, hein, de ne pas tout écraser sur une seule dimension, par exemple la dimension de la religion. Ne voir que un problème de religion dans ce qui s'est passé, c'est une erreur d'analyse fondamentale, hein, complète. Mais la religion fait partie du cadre d'analyse. Il y a un niveau religieux, incontestablement, mais il y a aussi un niveau politique, géopolitique, je viens de l'évoquer tout à l'heure. Il y a évidemment un niveau économique, il y a évidemment aussi des questions économiques, et toute la question, c'est d'analyser ce qui se passe à chaque niveau et comment ces différents niveaux, alors on peut dire en gros le niveau économique objectif, matériel, des situations objectives des individus, et puis ce qui se passe dans la tête des gens, c'est-à-dire le symbolique, l'imaginaire, la culture, on va dire ça comme ça, comment est-ce que ça s'articule ? Comment est-ce qu'à un moment donné, ça se connecte ? Et donc, il faut faire ce travail. Maintenant, j'ajoute tout de suite que l'être humain n'est pas un être de raison. Nous ne vivons pas dans l'analyse, nous ne vivons pas dans la raison, hein, même pas le philosophe. Donc, à un moment donné, nous retournons dans l'émotion. L'être humain est un être d'affect. Hein,
oui.
Et l'affect, c'est l'émotion. Et donc, l'analyse n'est jamais qu'un moment pour passer d'une émotion, vous avez dit passive, à une émotion active. Ou si on veut le dire autrement, d'une passion triste, la colère, la crainte, à ce que Spinoza appelle des passions joyeuses, c'est-à-dire l'espoir, la fraternité, la solidarité. Donc je ne vois la raison, le fait de se déprendre, de penser autrement, comme vous dites, que comme un moteur pour nous permettre de passer d'un état d'émotion à un autre. Donc je reste aussi très, c'est même pas lucide, je pense que c'est très important, de surtout pour le philosophe, parce que sinon le philosophe prend une posture de surplomb, comme ça, par rapport aux êtres humains, et par rapport même à lui-même, ce qui est très mauvais, parce que c'est très narcissique. Donc la raison n'est jamais qu'un moment, et il faut à un moment donné pour se demander, bon, et maintenant j'éprouve quoi ?
Hein, oui, tout à fait.
J'éprouve quoi comme émotion ? Et si on a simplement fait marcher un petit peu sa raison, eh bien, on peut espérer que l'émotion sera effectivement une émotion active et joyeuse.
C'est ce que nous allons faire d'ailleurs après la pause musicale, et justement essayer d'être très attentif à tous ces emboîtements, qui expliquent bien des choses, avec des cadres qui sont tout de même extrêmement importants pour qu'une démocratie puisse continuer à vivre. Nous allons nous faire une petite pause musicale avec Akamoun et son dernier opus, Scarlatti Book, avec le pianiste italien Fabian Fiorini. sur RCF, nous continuons notre entretien avec Édouard Delruel. Et le sujet, c'est de pouvoir passer de l'émotion qui est née au moment des attentats, de cette année agitée qu'a été 2015, de l'émotion à l'analyse. Et voir un petit peu comment les différents niveaux auxquels on peut se situer, comment ces différents niveaux peuvent s'articuler dans un cadre démocratique. Édouard Delruel, vous avez parlé énormément de ces phénomènes de violence. La violence, bien sûr, la violence armée, mais il y a également une violence économique, une violence sociale, une violence symbolique. Je pense que tout cela est important pour comprendre, pour aller un petit peu plus loin.
Voilà, essayons de le faire le plus clairement possible. C'est très compliqué de définir la violence. Hein. La violence n'a pas d'antonyme. Hein. Le contraire de la guerre, c'est la paix, mais il n'y a pas de... C'est la non-violence, mais on sait bien que la non-violence n'existe pas. Il y a toujours de la violence dans les rapports humains. La violence, elle peut être physique, elle peut être psychologique aussi. Elle peut être spectaculaire, comme des attentats. Elle peut être invisible, comme les violences domestiques, etc. Je pense qu'il y a en tout cas une façon peut-être de définir la violence, c'est que c'est toujours une montée aux extrêmes. Donc la violence est souvent une dynamique, c'est-à-dire que petit à petit on anéantit les résistances. Vous parliez d'humiliation tout à l'heure, c'est ça l'humiliation, hein. C'est quand on se sent anéanti dans ses capacités de résistance. Et la violence est une montée aux extrêmes, c'est-à-dire on ne voit pas le bout, on sent que c'est une spirale et on se demande où ça va s'arrêter, comme si ça ne devait pas s'arrêter. Maintenant, si on regarde cette montée aux extrêmes, moi j'utilise, mais c'est pas moi qui ai inventé même la métaphore, j'ai utilisé une métaphore pour expliquer comment la violence objective, la violence économique, la violence de l'exploitation monte aux extrêmes avec cette autre forme de violence qui est la violence imaginaire, la violence des identités, la violence des idéologies. Donc, en quelque sorte, subjectives, celles qui font que nous sommes dans la haine et que nous sommes capables, à partir de cette haine, d'exterminer, de tuer ou de nous sacrifier, ce qui est aussi, on l'a vu, peut-être aussi une forme de violence. Et je vais utiliser une métaphore, c'est une métaphore qui vient d'un philosophe qui m'inspire beaucoup et qui est un ami, qui est Étienne Balibar, un philosophe français, Étienne Balibar, et qui choisit l'image de la bande de Möbius. Alors, c'est pas très radiophonique, mais je vais quand même essayer d'expliquer ce que c'est que la bande de Möbius. Donc vous prenez une bande, une ceinture par exemple, et vous faites une torsion d'un tour, une bande de papier, vous faites une torsion d'un tour, vous collez ou vous attachez, et puis vous apercevez qu'une fourmi imaginaire, imaginez donc une fourmi, elle va passer d'un côté à l'autre de la bande sans passer par le côté. C'est-à-dire que vous avez toujours bien deux faces, une face objective de l'existence, une face subjective, une face économique, notre situation économique, sociale, matérielle, objective, et puis nous avons ce que nous avons dans la tête, notre imaginaire, nos identités. Eh bien, en réalité, dans l'existence, nous passons d'une face à l'autre sans jamais passer par le bord, sans jamais nous dire « tiens, maintenant, je suis dans l'objectif » et puis « tiens, maintenant, je suis dans le subjectif ». Eh bien, dit Balibar, la violence, elle va passer comme ça, comme cette fourmi imaginaire sur la bande de Möbius, elle va passer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que la situation de discrimination, d'inégalité dans laquelle se trouvent certaines populations, eh bien, cette situation objective va à un moment donné se charger via les médias, via Internet, via toutes sortes de récits manipulés, va se charger subjectivement. Et cette violence subjective va retourner dans l'ordre objectif, qui va retourner dans l'ordre subjectif et ainsi susciter la violence. Mais c'est vrai aussi, c'est parce que nous parlions ici du terrorisme, mais c'est vrai aussi, évidemment, en Occident, c'est vrai partout. Et donc je pense que la violence, c'est cette spirale, comme ça, ce cercle vicieux, en l'occurrence, qu'il s'agit d'essayer de retourner, et qui va nous faire passer d'une violence objective, cette violence structurelle, anonyme, d'une société hyper-capitaliste dans laquelle nous vivons, à une violence subjective, qui est la violence des idéologies et des idéologies totalitaires. Il ne faut jamais oublier que l'islamisme politique, l'islamisme violent, c'est avant tout une idéologie politique totalitaire, qui a d'ailleurs assez peu de rapport avec les textes sacrés en tant que tels. En général, ce ne sont pas des très grands théologiens qui sont les théoriciens du salafisme violent. C'est avant tout une idéologie totalitaire, c'est-à-dire qui véritablement provoque une emprise mentale, on le voit bien, avec la radicalisation des jeunes. Donc je pense que c'est ça qu'il s'agit d'essayer d'arrêter, hein, cette bande de Möbius, qu'il s'agirait d'essayer d'inverser pour qu'au contraire, comme on l'a vu dans certaines périodes de notre histoire, la spirale soit positive et non pas négative, que le cercle soit vertueux et non pas vicieux. Lorsqu'on a davantage de cohésion sociale dans une société, lorsqu'on forme un monde commun parce que on a une certaine sécurisation d'existence, parce que les écarts extrêmes entre les plus riches et les plus pauvres, je ne dis même pas qu'il faut l'égalité parfaite, c'est pas ça la question, mais que les positions, les places extrêmes se réduisent, on voit que les identités sont plus les individus ont moins besoin d'identité collective forte, ils ont besoin de moins de nationalisme, de moins de communautarisme, ils peuvent davantage jouer avec leurs identités. On a vu ça pendant ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, on a eu une certaine cohésion sociale et en même temps les combats pour le droit des femmes, pour le droit des minorités, un déclin du nationalisme, peut-être aussi d'ailleurs des religions, en tout cas des religions dans leur forme institutionnalisée. Tandis que lorsque la cohésion sociale se défait, parce que sur le plan matériel, c'est l'individualisme, la compétition, la concurrence qui règne, eh bien les individus, pour tenir tout simplement, eh bien vont investir les identités collectives, vont investir psychiquement dans le nationalisme ou dans le communautarisme, et on va partir dans les chocs de civilisation et choses de ce genre. Donc il y a vraiment une question de dynamique, et c'est là où la politique est tellement importante, qu'on le veuille ou non, l'histoire est une question de dynamique, et vous avez dit cette triste année 2015, oui, parce que nous sommes dans une dynamique négative, moins de cohésion sociale, donc investissement dans les identités, jusqu'à ces formes extrêmes de violence, d'ultra-violence, comme dit Étienne Balibar, dans laquelle nous vivons. Et tout l'objet, c'est évidemment de savoir comment, par la citoyenneté, par la démocratie, un peu par la réflexion, j'espère, inverser cette dynamique.
Ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est la puissance de l'imaginaire public. Pas mal de sociologues disent à quel point l'imaginaire public a une puissance bien plus importante sur les masses, en tout cas, que les faits, que les processus sociaux qui sont en cours. Et donc c'est une chose importante.
Bien sûr, on pourrait le montrer, mais le décalage entre... Prenons la question des migrations. Le décalage entre la réalité des migrations et la perception par la population, et là les médias ont parfois une responsabilité hélas écrasante, cet écart est gigantesque. Hein. Les Belges, par exemple, pensent qu'il y a 30% de musulmans en Belgique, alors qu'ils ne sont que 6 ou 7%. Nous pensons être envahis par les réfugiés syriens. Les réfugiés syriens, c'est 300 000 personnes sur une population de 500 millions d'habitants. L'Europe, c'est-à-dire 0,06% de la population européenne. C'est-à-dire en fait une grande ville comme l'agglomération de Liège. C'est tout ce que ça représente, les réfugiés syriens, pour un immense continent. Et malgré tout, on a l'impression d'une crise. On parle de crise. Il faut savoir quand même qu'il y a des millions de Syriens déplacés. Il y en a plus de 2 millions en Turquie, plus de 1 million au Liban, qui est un tout petit pays, la Jordanie, 1 million de réfugiés syriens, l'Europe, 270 000 à 300 000, et nous parlons d'être envahis. Donc, il y a un décalage énorme entre la réalité et la perception, et évidemment, cette perception, elle est porteuse de violence, quelle que soit la communauté, de chaque côté de la rive et de chaque côté des communautés, vous avez évidemment, à partir de là, un potentiel de violence qui se trouve dans notre imaginaire. Il faut évidemment faire baisser cette pression, c'est tout à fait fondamental. Vous avez tout à fait raison.
Et nous avons évidemment nous sommes ici vraiment dans l'opacité, alors avec cette crise et cette surenchère verbale bien souvent. Alors vous dites au fond que pour que le curseur aille dans le sens d'une coexistence ou d'un vivre ensemble, notre système démocratique est très important. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie pour vous ? Vous écrivez quelque part que pour vous une démocratie doit être radicalement déthéologisée d'une part et respectueuse des différences d'autre part. Pouvez-vous nous détailler un peu cela ?
Vous savez, le débat est, en France, en Belgique, fortement structuré entre une position concernant toutes ces histoires de laïcité et de rapport entre le religieux et le politique, entre une position, je vais dire laïciste, qui va dire la religion doit être reléguée dans l'espace privé, et il faut neutraliser un maximum l'espace public. Là, ce serait le côté, si vous voulez, déthéologisation, mais même plus neutralisation hein, de l'espace public, non seulement la fonction publique, mais de l'espace public, et puis une position multiculturaliste qui va au contraire dire bah, l'État n'a pas à se mêler des croyances des gens, mais ces croyances doivent être reconnues et chaque culte doit être reconnu, y compris dans l'espace public. Jean Bobéro, l'historien de la laïcité, Jean Bobéro, distingue 6-7 laïcités différentes, peu importe ici, mais enfin, il y a les deux pôles structurants. Il parle d'une laïcité de séparation d'un côté et d'une laïcité de coopération ou de collaboration de l'autre. Dans une laïcité de collaboration, ben, les religions sont invitées à participer au débat public de façon active, tandis que dans une laïcité de séparation, on la réfère toujours à la France, les religions sont priées de rester dans l'espace privé. Je pense que d'abord, ce ne sont jamais que des éléments ici, des pôles structurants, parce que dans la réalité, c'est toujours les deux. Hein. Que ce soit dans un pays comme la France, comme l'Angleterre, l'Allemagne ou la Belgique, on a toujours certains éléments de séparation et certains éléments de coopération ou de collaboration entre l'État d'une part et les religions de l'autre. Et je pense que nous devrions regarder peut-être de façon plus positive ce qu'on pourrait appeler la laïcité à la belge, parce que finalement la laïcité à la belge, elle montre que ces deux types de laïcité ne sont pas contradictoires, qu'il faut sans doute à certains moments et à certains niveaux, avoir une laïcité de séparation. Personnellement, je suis partisan de l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique et à l'école, en tout cas à l'école publique. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de dire que la religion, ce n'est pas en tout lieu et en toute heure. C'est en ce sens que je parle de la démocratie comme étant effectivement radicalement déthéologisé. Il faut pouvoir dire que la religion, ce n'est pas en tout lieu et en toute heure. Et puis d'un autre côté, les individus, on le disait tout à l'heure, les individus sont... L'être humain est un être de symbolique, un être de croyance. C'est vrai de l'athée que je suis comme des croyants. L'athée n'est jamais que quelqu'un qui ne croit pas en une divinité extérieure, etc., mais qui ne peut rien dire d'autre, qui croit qu'eux. Hein. Bon, donc nous sommes tous avec nos croyances. Et ces croyances, elles font bien partie de l'espace public aussi. Et l'individu qui est citoyen, c'est aussi un individu qui est croyant. Donc, il faut aussi cette dimension de collaboration, de coopération avec les religions, ce que l'État belge fait, comme vous savez, en finançant les lieux de culte, en finançant les ministres du culte, en finançant la formation des cadres religieux. Voilà, on est toujours dans une tension hein, entre une laïcité de séparation et une laïcité de reconnaissance. Et je pense que nous avons besoin de les laïcistes, les gens souvent de mon camp, entre guillemets, idéologique, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont parfois inattentifs aux violences, à la violence symbolique ou réelle qu'une certaine neutralité comme ça, verticale, fait peser sur les croyants, surtout quand ceux-ci sont minoritaires. D'un autre côté, certains multiculturalistes négligent parfois les rapports de violence qui peuvent exister au sein même des communautés, comme si la culture n'était qu'une question de choix individuel. Or aussi, dans la culture et dans les convictions, il y a aussi des rapports de force, il y a aussi des pressions, il y a aussi des rapports de domination. Et donc, de ce point de vue-là, on a aussi besoin de laïcité. Vous voyez, je pense que c'est dans une tension féconde entre ces deux types de laïcité, la laïcité de séparation et la laïcité de coopération, qu'on peut à ce moment-là enclencher une dynamique positive qui est parfois de dire aux croyants la religion, pas ici, pas maintenant, et puis, à d'autres moments, de dire venez avec vos ressources de sens qui sont les ressources de votre foi. Il ne faut jamais oublier aussi que les religions, comme toutes les grandes idéologies qui prennent aux tripes, hein, qui sont des idéologies de l'incorporation que nous intériorisons. C'est vrai du nationalisme, ça a été vrai du communisme, hein, peut-être moins d'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai de toutes les religions, de l'islam comme de la religion catholique et d'autres, sont très ambivalentes. Comme elles prennent au corps, elles sont à la fois des sources de sens, des sources de résistance, ce que le philosophe italien Roberto Esposito appelle une impolitique, c'est-à-dire une politique en creux, c'est-à-dire une indignation, une colère, un désir de fraternité. Et donc, En ce sens, les religions sont positives, y compris pour la démocratie. Et puis en même temps, les religions, comme les idéologies, hein, ce n'est pas seulement que les religions, comme les idéologies, comme le nationalisme, comme le communisme, sont aussi porteuses de dogmatisme, sont également porteuses d'enfermement, de manipulation imaginaire. Et donc, le travail de la démocratie, c'est sans arrêt à venir, quitte à ce que ça fasse un peu mal, à venir au milieu de cette tension pour essayer évidemment de faire émerger ce qu'il y a de plus positif dans nos croyances et d'essayer de minorer, voire de combattre ce qu'il y a de négatif.
Et ce qui est très intéressant ici, c'est vraiment que vous êtes en train de déplacer le curseur. Et à tout moment, vous dites à quel point nous sommes dans une tension. L'enjeu, c'est de transformer cette tension en tension féconde. Pas d'opposition, pas d'amalgame, mais une tension féconde. Et alors, avant de faire la pause musicale, je pense qu'on pourrait simplement rappeler une expression qui est peu connue en Belgique, c'est la laïcité à la belge, se définit souvent comme neutralité active, ce qui est une expression un peu curieuse, mais si j'ai bien compris, c'est l'État qui est à égale distance de toutes les convictions, et à égale distance et un peu en surplomb.
Alors, moi, là, mon grand référent quand il s'agit de penser de la laïcité, c'est quelqu'un qui n'en a pas parlé directement, mais quand même très fortement et directement, qui est Spinoza. Je ne crois pas du tout à la laïcité comme étant simplement la séparation de l'Église et de l'État. Je pense que c'est une définition d'abord assez plate et deuxièmement assez anachronique, parce qu'elle est surdéterminée par le combat entre l'État et l'Église catholique, et la seule Église catholique. Mais si on reprend Spinoza, le traité théologico-politique, Spinoza dit deux choses très simples. Il a deux cibles. Un, il s'adresse aux responsables politiques hollandais et il leur dit « La seule manière pour que les religions vivent en paix, on est au moment des guerres de religion, on sort des guerres de religion à ce moment-là, et la Hollande est sans doute le pays qui a le plus apaisé déjà à l'époque, mais ce n'était pas si simple que ça. Mais Spinoza dit « Pour que les religions vivent ensemble, il faut que l'État soit au-dessus. Il faut que la loi de l'État prime sur toute normativité religieuse. » Et d'une certaine façon, que quand on parle de loi de Dieu, c'est une métaphore. Et qu'il faut bien qu'en tant que citoyen, les citoyens comprennent que la seule loi commune qui vaille, c'est la loi de l'État, y compris d'ailleurs sur les aspects extérieurs de la religion, puisque, mais même si c'est un débat du XVIIe siècle, l'État, selon Spinoza, doit régler le jus circa sacra, c'est-à-dire le droit autour des choses sacrées, oui, c'est-à-dire les cérémonies, les processions, les vêtements, etc., etc. Deuxièmement, Spinoza s'adresse aux chrétiens, et notamment aux chrétiens tolérants, évangéliques, on est dans le contexte de la Hollande du XVIIe siècle.
Protestants libéraux.
Les protestants libéraux, exactement, en leur disant, d'abord en disant qu'ils ont un rôle très important à jouer. Pourquoi ? Parce qu'une religion doit constamment, en contexte moderne et démocratique, constamment faire un travail sur elle-même, un travail de réflexivité, d'abord par la critique philologique, historique des textes, d'une part, pour ne pas fétichiser les textes, et deuxièmement, pour que la religion soit moderne au sens propre. Moderne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se modifie, c'est-à-dire qu'il s'adapte à son contexte linguistique, à son contexte de savoir. Spinoza avait une chose très simple en tête, hein, que la religion soit compatible à Galilée pour son époque. Oui, et fait, ça nécessite contexte. Que la religion, sans arrêt, fasse un travail sur elle-même pour, en quelque sorte, ôter ou en tout cas ne pas donner trop d'importance à ses aspects extérieurs, et que le croyant se concentre sur son intériorité, sur son véritable cheminement spirituel. Et donc, pour moi, la laïcité, ce n'est pas seulement une affaire de... C'est l'affaire de l'État. Hein. Donc, l'État doit s'occuper de religion, c'est ça, la neutralité active. L'État a un rôle à jouer. Par exemple, aujourd'hui, tout à fait concrètement, concernant l'islam, dans la formation des cadres religieux musulmans, d'améliorer ces formations, des imams, des professeurs de religion islamique, des conseillers moraux, les aumôniers, etc. Et deuxièmement, de faire en sorte, mais ça c'est aussi la responsabilité de chaque croyant en tant qu'il est citoyen, de faire un travail critique sur lui-même, un travail réflexif sur sa propre foi, pour que sa propre foi et sa propre croyance soient compatibles avec celle des autres.
Absolument. Et justement, dans cette conception-là, c'est inviter les convictions à accepter la critique interne et externe. Nous allons faire une deuxième pause musicale, Monsieur Delruel, avec Acamoun, toujours, et toujours avec le Fabian Fiorini, toujours un extrait de Scarlatti Book. Sur RCF, nous poursuivons notre entretien avec Édouard Delruel. À partir des attentats de Paris et de toute cette année 2015, nous essayons de passer de l'émotion à l'analyse et nous avons pu voir à quel point le concept de laïcité à la belge, de neutralité active, était extrêmement intéressant pour définir la position de l'État en surplomb, mais à égale distance, des différentes convictions. Monsieur Delruel, il y a une chose qui est extrêmement intéressante et stimulante dans votre livre, c'est liberté, égalité et puis civilité. C'est particulièrement intéressant, la liberté, égalité, souvent on les oppose en disant mais c'est l'analyse de Tocqueville, je pense, que celui qui est libre et la liberté d'entreprendre risque, s'il est malin, débrouillard et peut-être même rusé, de réussir, et donc il n'est plus l'égal de l'autre, évidemment. Celui qui, au contraire, vivrait dans un état extrêmement autoritaire, toute velléité d'initiative et donc de liberté serait impossible. Ça, c'est une analyse très
courante,
et dans la ligne de la philosophie libérale. Eh bien, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Oui, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, même si Tocqueville est évidemment un tout grand sociologue et un tout grand philosophe. On va commencer effectivement peut-être par liberté, égalité. Moi, je reprends tout à l'opposé de Tocqueville. Donc Tocqueville, comme vous l'avez très bien expliqué, opposait liberté et égalité, disant que l'un est en proportion inverse de l'autre, en quelque sorte. Et comme c'est un libéral, il dit qu'il faut évidemment toujours donner la priorité à la liberté sur l'égalité. Il ne niait pas une certaine nécessité d'égalité, notamment d'égalité de conditions. Même s'il était aristocrate, il voyait bien que tout ça était fini, mais qu'il fallait toujours donner la priorité à la liberté. Et personnellement, je m'oppose à cette idée sur laquelle liberté et égalité seraient en opposition. Au contraire, je pense qu'on ne peut penser la liberté que comme égalité et réciproquement. Toujours mon philosophe fétiche, si je puis dire, Étienne Balibar, parle d'égaliberté. Donc il fait un mot valise, mais qui ne veut jamais dire que l'égale liberté. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre? D'abord, il y a un argument presque logique. Pourquoi est-ce que la liberté, c'est l'égalité? Je ne peux pas être libre de discriminer autrui. Je ne peux pas être libre d'assujettir autrui. Je ne peux pas être libre de dominer autrui. Sinon, ma liberté est pour lui non-liberté. La condition de ma liberté serait donc sa non-liberté, ce qui est contradictoire. Inversement, c'est quoi l'égalité? C'est quoi l'égalité femme-homme? Sinon la libération de la femme de la domination de l'homme, hein, des formes de domination de l'homme. Donc l'égalité, c'est quoi? C'est la libération de la liberté. Donc on voit bien sur un plan presque logique, j'ai envie de dire, que liberté et égalité s'entrappartiennent. Mais je pourrais donner également un argument historique. Il n'y a aucune société d'égalité qui n'ait été une société de liberté et vice-versa. L'URSS, les libertés publiques étaient bafouées, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était aussi une société où les inégalités en réalité étaient gigantesques entre les apparatchiks du régime et le peuple, les inégalités étaient énormes. Pareil aujourd'hui pour les grands pays du capitalisme le plus sauvage que sont les États-Unis et la Chine, où les inégalités sont tout à fait criantes, ce sont aussi les pays où les libertés sont le plus chancelantes. 7 fois plus de gens en prison aux États-Unis que dans les pays européens. La peine de mort, des libertés syndicales qui sont parfois chancelantes, et pour ne rien dire de la Chine. Donc on voit, et à contrario, quels sont les pays où les libertés individuels sont les plus respectés aujourd'hui dans le monde? C'est sans doute les pays scandinaves qui sont en même temps les pays où l'égalité ou une certaine égalité à travers les systèmes sociaux fonctionne. Donc vouloir opposer la liberté et l'égalité, je pense, est faux, est tout simplement faux historiquement et faux logiquement. Donc je pense que l'anthropologie libérale, on y reviendra peut-être, j'ai beaucoup d'admiration pour le libéralisme, je pense qu'il y a un moment de libéralisme dans nos existences qui est tout à fait nécessaire, comme reconnaissance que notre corps nous appartient, de la propriété de soi. Je ne veux pas du tout renoncer à cela, mais je pense que l'anthropologie libérale est fondamentalement fausse, que nous devons donc sans cesse penser la liberté avec l'égalité, tout simplement parce qu'elles s'entrappartiennent. Je ne peux pas être libre contre autrui.
Ce qui est extrêmement intéressant ici dedans, c'est qu'il y a deux pôles, et c'est d'ailleurs le titre de votre livre dont nous parlerons tout à l'heure, « L'homme et le citoyen ». Il y a l'homme, effectivement, qui a été reconnu dans son individualité, et ça, c'est une chose importante.
Oui, alors, homme et citoyen, on peut dire que là aussi, il y a évidemment toujours une tension entre les deux. Heureusement, nous ne sommes pas citoyens à toute heure du jour et de la nuit, et parfois nous mettons notre humanité nue, si vous voulez, entre parenthèses, pour devenir des citoyens et collectifs. Mais il y a quand même une très grande proximité, parce que qu'est-ce qui fait la particularité de l'homme et du citoyen? Le titre de ce livre, ça fait évidemment référence aux droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et quelle est finalement la révolution au sens propre de 1789. Athènes a inventé l'autonomie citoyenne, la citoyenneté active, l'égalité entre les citoyens, ce qu'on appelait l'isonomia. Mais ce n'était pas pour tous les hommes, ce n'était pas pour tous les humains, puisque cette égalité entre citoyens, cette citoyenneté active à Athènes excluait les femmes, excluait les étrangers, les métèques, et excluait évidemment les esclaves, 30% de la population. En fait, il n'y avait que 10% de citoyens qui étaient égaux. Le message du Christ, délivré par saint Paul, la fameuse phrase de saint Paul, « Il n'y a pas de juifs et de grecs, d'hommes et de femmes, etc. Vous êtes tous un dans le corps de Jésus », c'est une affirmation d'une égalité des hommes, y compris des hommes et des femmes, y compris entre les nations, entre les sexes. Mais c'est une égalité qui n'est pas citoyenne, puisque mon royaume n'est pas de ce monde.
C'est une égalité spirituelle.
C'est une égalité spirituelle. Tandis que la Révolution française conjoint les deux. Alors qu'Athènes, on a une citoyenneté, mais on n'a pas d'universalité. Avec Jérusalem, on a une universalité, mais on n'a pas la citoyenneté. Avec 1789, on a la citoyenneté et l'humanité. On a l'homme qui est l'égal du citoyen. Et évidemment, cela enclenche tout de suite, après la déclaration de 1789, où ces braves bourgeois ne voulaient qu'une chose, c'était se défaire du régime de privilèges et du régime de tyrannie du roi. Mais tout de suite, les femmes sont venues, Marie-Olympe de Gouges en disant « et nous, les femmes ». Et puis Toussaint Louverture en disant « et nous, les esclaves ». Et puis les juifs sont venus en disant oui, « et nous oui. », etc., etc. Enclenchant une dynamique de revendication qui évidemment a été toute une dialectique, parce que les choses se sont évidemment refermées avec Napoléon, se sont réouvertes avec le printemps des peuples, etc. Mais la dynamique était lancée. Et à nouveau, c'est une dynamique aporétique, parce que qu'est-ce que l'égalité dans la différence? C'est quoi l'égalité entre l'homme et la femme? C'est quoi l'égalité entre un professeur et son élève? C'est quoi l'égalité entre un homme saint et un fou? C'est quoi l'égalité dans la division du travail? Il faut quand même bien une division du travail. Donc toutes ces questions, en fait, sont complètement aporétiques, c'est-à-dire qu'elles vont dépendre du débat démocratique. Ça, c'est pour moi l'articulation que vous dites entre homme et citoyen, qui à la fois, c'est la même chose, puisque tout homme est citoyen, et puis, en même temps, cette humanité est terriblement aporétique parce que comment est-ce qu'on organise le mariage, toute la question du mariage pour tous ou pas, la question de la division du travail, donc de la distribution des richesses, etc. Ça, c'est le débat démocratique.
Mais ce qui s'est passé en 1789, notamment, c'est cette parole forte, cette parole active, ce que vous appelez la parole performative. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ce concept linguistique et qui est peut-être pas tellement familier pour nos auditeurs?
Oui, sûrement pas. C'est même un terme un peu technique. Donc, désolé d'introduire ici des termes un peu techniques, mais quoique c'est assez simple à comprendre. Ce qui est intéressant dans la déclaration de 1789, en fait, c'est moins le contenu, les énoncés, que la déclaration elle-même, l'énonciation. C'est-à-dire que les révolutionnaires de 1789, ils ont fait quelque chose en 10 ans. En parlant, en déclarant, en s'auto-déclarant leurs droits, ils ont fait quelque chose.
C'est une césure, en quelque sorte.
C'est une césure et c'est un acte. Alors, c'est quoi un performatif ? Un performatif, c'est quand une parole est en même temps un acte. Évidemment, tout le monde connaît ça. Lorsque un ministre du culte prononce certaines paroles, il fait en même temps quelque chose. Un président de séance qui dit « je déclare la séance ouverte », eh bien, par le fait même d'avoir prononcé ces paroles, dans un certain contexte, il a fait quelque chose. Mais on peut multiplier. Lorsque vous dites à table, à votre voisin de table, passez-moi le sel, vous faites quelque chose, vous allez faire quelque chose à quelqu'un. Donc la parole n'a pas seulement une dimension représentative de représenter nos sentiments ou ce que nous croyons, ce que nous voyons autour de nous. Le langage a aussi une fonction performative, une fonction d'énonciation. Et cette fonction d'énonciation du langage, elle peut être positive lorsqu'il s'agit de promesses, lorsqu'il s'agit d'engagement, lorsqu'il s'agit de pactes sociaux, de contrats, lorsqu'il s'agit de convictions qui nous poussent évidemment vers la joie, l'émancipation, la libération. Et il faut aussi faire attention parce que la parole, en tant qu'elle est un acte, peut aussi être de l'incitation à la haine, peut aussi être du harcèlement, peut aussi être une forme de violence. Je disais tout au début, les bombes sont des messages. Certains messages sont aussi des bombes, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la parole comme d'un certain type de comportement qui consiste à faire quelque chose ou à faire quelque chose. C'est ça la définition d'incitation. J'essaye de faire quelque chose à quelqu'un, de lui faire commettre une discrimination, de lui faire commettre une violence, mort aux Juifs, mort aux Arabes, en disant ça dans certains contextes. Je viens de prononcer ces mots, mais personne ne m'accusera évidemment d'incitation à la haine. Mais dans certains contextes, les mots que je viens de prononcer sont évidemment des actes, des comportements qui sont répréhensibles. Donc, faisons bien attention, le langage a une importance absolument fondamentale dans ce que j'appelle, et ça c'est le troisième terme, la civilité.
La civilité, et donc liberté, égalité, civilité. Un mot de civilité, pourquoi civilité ?
Liberté, égalité, alors on attendrait fraternité plutôt que civilité. Effectivement, je fais ce petit changement, c'est à nouveau du balibar. Vous allez me dire que je pense uniquement dans les rails de cet auteur, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin c'est vrai qu'il m'a beaucoup influencé, et je conseille à tout le monde de le lire, même s'il n'est pas toujours très, très simple et très facile. Mais pourquoi pas fraternité ? D'abord, je pense que la fraternité, c'est un concept en fait difficilement politisable. La fraternité, d'abord, ce n'est pas un lien politique au départ, c'est un lien généalogique, c'est un lien de famille. Deuxièmement, c'est un terme extrêmement chargé, qui est commun aux religions, à la franc-maçonnerie, au communisme, au fascisme, etc. Et puis surtout, je répète, il n'est pas complètement politisable, parce que dans les liens politiques, nous n'avons pas des liens de fraternité, nous avons des liens précisément politiques, juridiques, qui ne sont précisément pas des liens de fraternité. De ce point de vue-là, je préfère civilité. Civilité, ça signifie deux choses. Un, dans civitas, vous avez la cité, c'est-à-dire la citoyenneté. Dans la civilité, il y a d'abord un rapport politique, et notamment d'égalité. Deuxièmement, dans la civilité, dans le sens courant du mot français, c'est une sorte de politesse, une sorte de retenue dans les rapports humains. C'est aussi que dans la civilité, et c'est pour moi quelque chose de tout à fait important, on entretient l'espace commun. Le geste même de l'incivilité, c'est le papier gras, le graffiti. C'est-à-dire quand on abîme le tiers, il n'y a pas de rapport entre un « je » et un « tu » qui ne passe par le tiers, c'est-à-dire par un espace. C'est ça la civilité, c'est qu'on entretient l'espace tiers, l'espace symbolique entre un je et un tu. Eh bien, il y a toujours un il et il y a toujours une tiercéité, comme on dit parfois. Mais la civilité, c'est ça, c'est l'entretien de cela. Et je pense que c'est tout à fait fondamental. On va retomber ici sur les questions de démocratie, de laïcité. Nous avons besoin d'un espace commun. Cet espace commun, il doit évidemment être riche. Il doit être riche en symboles, il doit être, et je pense qu'aujourd'hui, hélas, cet espace commun est souvent appauvri, notamment par des produits médiatiques qui ne sont pas toujours de qualité, par un imaginaire qui est souvent un imaginaire un peu pauvre. Nous avons besoin d'un espace commun qui soit un espace riche en symboles, mais pas trop riche non plus en symboles, parce que sinon ces symboles vont complètement écraser, étouffer l'inventivité, étouffer la liberté, la pluralité aussi, qui ne sera pas possible si cet espace n'est pas un minimum vider en quelque sorte. Donc il faut trouver un bon équilibre pour que, et c'est ça la civilité, pour que à la fois nous ayons des rapports humains qui soient des rapports humains riches, chauds, signifiants, qui supposent un imaginaire actif, et en même temps qu'il ne le soit pas trop pour permettre une certaine distance, une certaine égalité, même une certaine abstraction. Les citoyens entre eux ont besoin d'une certaine neutralisation pour pouvoir tout simplement être eux-mêmes.
Merci Édouard Delruel. Merci pour cet entretien qui nous a mené, suite aux attentats de Paris, de l'émotion à l'analyse. Vous nous avez aidé à situer les différentes convictions à l'intérieur de notre système démocratique, en soulignant un des acquis de la modernité qui est la primauté de la loi sur les convictions. Vous avez confirmé la complexité et les équilibres nécessaires pour éviter tous les simplismes meurtriers. Vous avez aussi insisté sur l'importance du langage. Vous nous avez proposé une compréhension renouvelée de la triade liberté, égalité, civilité, terme que vous préférez à fraternité. Vous contribuez ainsi à la réhabilitation du politique, puisque l'homme, l'individu, est aussi un citoyen. Pour prolonger cette réflexion, je recommande à nos auditeurs votre livre de Édouard Delruel, De l'homme et du citoyen, avec comme sous-titre Une introduction à la philosophie politique. Livre publié chez De Book en 2014. Cet ouvrage renoue avec la grande tradition du dialogue. Il y en a une vingtaine, c'est solide et limpide. On peut aussi consulter votre site, riche en articles et contributions diverses. L'adresse de votre site, www.edouard-delruel.be edouard-delruel.be. Vous m'avez fait aussi découvrir André Tozel. Ce philosophe mérite toute notre attention. Pour entrer dans une pensée riche et stimulante, je vous recommande un recueil de 3 essais intitulé, tout simplement, « Essais pour une culture du futur » aux éditions du Croquant. Merci à vous, Édouard Delruel, merci encore une fois et au plaisir de croiser votre route. Et je vous laisse, chers auditeurs, une fois de plus, avec le Scarlatti Book, Acamoun et le pianiste italien Fabian Fiorini. Au revoir, à bientôt.